Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je ne sais pas si mon invité d'aujourd'hui est pop, mais c'est un rock. Pour preuve, il a résisté à toutes les vannes qu'on a pu faire autour de son nom depuis qu'il est sur Terre. Car il est bien né sur Terre, et non pas sur la planète rouge qui porte presque son nom. Enfin bon, autant jouer carte sur table. L'émission d'aujourd'hui sera 100% marxiste. Tendance Thierry, le chef auquel on obéit sans hésiter, tant sous ses dehors rudaniers, il dégage une telle sérénité. Mais attention, il ne faut pas s'y fier, comme il le disait à l'époque où il était casque bleu au Liban. Thierry Marx, puisque c'est donc de lui qu'il s'agit, est un faux calme, ou plutôt quelqu'un qui sait canaliser son énergie, comme je m'en faisais encore la réflexion l'autre jour en le voyant dérouiller son adversaire sur un ring de boxe, au prétexte que celui-ci s'était permis une réflexion à un poil limite, il est vrai, à propos de l'absence de poil, justement, sur le chef du chef. Nous ne commettrons pas ce genre de faux pas aujourd'hui, et quitte à marcher sur des œufs, autant que ce soit le jour où nous recevons un homme dont la cuisine réconcilie les marxistes de toutes obédiences. Thierry Marx est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Au menu de Popopop, un voyage spatio-temporel. Nous irons en 2045 pour parler de ça.
Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis.
Ça, c'est Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg qui sort demain. Et nous en parlerons tout à l'heure avec notre Marty McFly de la pop culture, Ronan Crowe. Mais avant d'aller en 2045, arrêtons-nous en 2018 sur la planète Marx. Pardon, ça m'a échappé. Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Bienvenue dans ce Popopop où nous allons parler de Popopote. Bien. À mes côtés, Charline Roux, un peu enrhumée à cause d'une fenêtre mal fermée de la DeLorean. C'est l'histoire. Bref, bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Thierry.
Bonjour.
Voilà pour le menu. Je laisse à un artiste qui ne mange que des bananes le soin de lancer l'émission.
Bonjour, c'est Philippe, Catherine. Pop, 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 pop. C'est parti.
Alors une passion que je partage avec lui. Bref, pop, 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 c'est parti.
Comment vous allez vous en sortir si je temporise pas en parlant le temps que vous finissez de manger votre banane, cher
voilà,
Antoine?
Voilà, c'est fait. Thierry Marx, ici, il existe une question récurrente, une question qui fait encore plus mal qu'un coup de rouleau à pâtisserie de Maïté et sa copine Micheline quand on est une anguille.
Ah oui, hop. Vous l'assommez un petit coup, là, pour l'endormir.
Non, c'est rien.
Oui,
voilà.
Entends même le rouleau à pâtisserie tomber. Bref, cette question, c'est... Thierry Marx, pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors, je vais faire une réponse un petit peu ambiguë. La pop culture, pour moi, c'est populaire, élitiste, avant-gardiste. Mais ce que ça me rappelle, moi, de mon adolescence, c'est plutôt cheveux gras et patogaz. C'est un peu ça, la pop culture.
À concentrer de tout ça, on peut dire.
À concentrer de tout ça.
Très bien, ça me convient. La cuisine est-elle pop? Quel est son rôle dans la pop culture? Nous avons toute l'heure pour en parler, mais tout de suite, on écoute l'artiste pop Forever Pavot et un morceau qui va plaire aux végétariens que vous êtes. Ça s'appelle le beefsteak.
Thank you.
Forever Pavot, le beefsteak, premier morceau de cette émission où nous parlons de pop cuisine en compagnie du sosie officiel de Bruce Willis. Pourquoi est-ce que vous riez, Charline ?
Parce que le groupe s'appelle Forever Pavot et pas Forever.
J'ai dit Forever Pavot. Ah, c'est vrai ? J'ai dit
oui.
Forever Pavot ?
Oui.
Je m'en excuse.
Mais c'est joli aussi, hein.
Bon. Nous recevons aujourd'hui le sosie officiel de Bruce Willis, mais au-delà de cette troublante ressemblance, qui est-il ? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, Thierry, c'est un portrait, mais. Et c'est signé Charline Rourou.
Alors je pensais partir sur un classique du portrait, avec tous les marqueurs de la recette, récit chronologique, réussite, récompense, actu. Mais je crois qu'à ce stade de la compétition, faut prendre des risques. Alors je vais tenter une revisite de biopic façon gourmande, mais avec ce qu'il faut d'acidité et de croquant, pour que tout ça explose en bouche. Je lâche rien, c'est promis, chef. Et vous comprendrez à ces quelques phrases que je n'ai pas raté une seule saison de Top Chef, émission dans laquelle a officié notre invité, mais qui ne suffit évidemment pas à le résumer. Thierry Marx excelle dans un domaine qui doit faire partie du top 3 de mes activités préférées, à savoir manger. Donc être face à un chef doublement étoilé, je me sens un peu comme Antoine face à Springsteen ou Kim Kardashian face à une perche à selfie, en admiration totale et béate. Un cuisinier avec option laborantin, il déconstruit et reconstruit, il est aussi impeccable en boulangerie, oui, il faut le dire, hein, le pain c'est la vie. Et tout ça avec de l'engagement dedans, la cuisine, ça rassemble les gens, c'est pourquoi Thierry Marx crée des associations et ouvre des formations. Il trouve même le temps d'écrire des romans. Un emploi du temps chaud patate, comme on le disait dans l'émission télé suscitée. Et je m'arrête là car je n'aimerais pas avoir à prononcer les mots Vérine et Espuma.
Il est chaud patate quand même cet emploi du temps Thierry Marx, non ?
Oui, il est assez bien cadré, tôt le matin, oui. tard le soir, avec deux heures de déverrouillage, de sas, de décompression par le sport. Mais c'est vrai qu'il est, il est bien cadré, mais en même temps, il est tellement excitant et je l'ai tellement voulu. Donc il n'y a pas de regret, il n'y a pas de frustration.
On va en reparler dans quelques instants. Thierry Marx, dans le supermarché de la pop culture, que mettez-vous dans votre caddie ? C'est l'heure de votre pop liste de course. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. On va commencer par le film. Vous avez choisi Le Samouraï, film franco-italien de Jean-Pierre Melville, sorti en 1967. Je résume le pitch. Hein. Jeff Costello dit le samouraï est un tueur à gages. Alors qu'il sort du bureau où gît le cadavre de Marthe, sa dernière cible, il croise la pianiste du club Valérie. En dépit d'un bon alibi, il est suspecté du meurtre par le commissaire chargé de l'enquête. Lorsqu'elle est interrogée par celui-ci, la pianiste feint de ne pas le reconnaître. Relâché, Jeff cherche à comprendre la raison pour laquelle la jeune femme a agi de la sorte. Voilà, extrait de la bande-annonce. Attention, on est vraiment en 67.
Jeff Costello, personnage central d'une intrigue dramatique, a-t-il encore des amis ? Le Samouraï, un film de Jean-Pierre Melville, interprété par Alain Delon, François Perrier, Cathy Rosier et Nathalie Delon. Une histoire passionnante, une interprétation hors de pair, une réalisation magistrale, un film exceptionnel.
sur une musique de François de Roubaix. Alors dites-nous pourquoi le samouraï Thierry Marx plutôt que Ratatouille par exemple.
Le mythe du samouraï, c'était d'abord un film avec peu de texte, peu de couleurs, beaucoup de noir et blanc, et puis une phrase au début du film qui rappelle les codes du Bushido. Il n'y a pas de plus grande solitude que celle du samouraï, le tigre dans la jungle peut-être. Et j'étais accroché à cette phrase et j'ai suivi le film en permanence et je m'intéresse encore au mythe du samouraï et il y avait dans ce film tout ce que vit un samouraï, cette grande solitude et cette relation intime avec la mort. Mm-hmm. D'ailleurs à la fin, Jeff Scosello se fait tuer volontairement, il riposte pas, le revolver n'est même pas chargé. Et je trouvais qu'il y avait une intrigue dans ce film qui était digne des plus grands polars et ça l'est. Et puis peu de texte. Mm-hmm. Jeff Costello parle peu. Quand il vient pour tuer l'homme pour qui il est mandaté, il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire là ? Vous tuez. Point. » Et pendant 10-15 minutes, il n'y a plus d'autres phrases dans le film, mais on est quand même maintenu par l'ambiance du film. C'est du grand Melville, moi j'adore.
La sobriété. Pour le livre, dans votre caddie, vous mettez « L'appel de la forêt ». Un livre écrit par Jack London, publié en 1903 aux États-Unis, qui raconte l'histoire d'un chien domestique vendu à la suite d'un concours de circonstances comme chien de traîneau, à l'époque de la ruée vers l'or, et qui revient à ses instincts naturels une fois confronté au piège et à la rudesse du territoire du Yukon. Ne me dites pas que Guillaume Gallienne a lu ce livre.
Mais si, il a tout lu, Antoine.
C'est incroyable. Merci Ghislain. Ghislain, c'est le réalisateur. Allez, vas-y, balance. Non, mais c'est dingue, il a vraiment tout lu. C'est quoi la prochaine étape, quoi?
Buck ne lisait pas les journaux. Sinon, il aurait su qu'il y avait de l'orage dans l'air. Pour lui-même, comme pour tous les chiens, aux muscles puissants et aux longs poils bien chauds, qui habitent le long de la côte de Californie, de Puget Sound à San Diego. Parce que les hommes, tâtonnant dans les ténèbres de l'Arctique, avaient découvert un métal jaune, et que des lignes maritimes et des compagnies de fret transformaient cette découverte en ruée, ils se précipitaient par milliers vers le Grand Nord. Ils avaient besoin de chiens à la puissante musculature pour endurer la besogne et à l'épaisse fourrure pour se garder du froid.
Qu'est-ce qu'il a cet appel de la forêt de Jack London qui vous plaît tant, Thierry Marx ?
Ça a été pour moi une révélation quand j'ai lu ce livre. D'abord, c'était un cadeau de Noël, donc j'ai dû mettre plus d'une année à lire ce livre. Mmh. Mais c'est le livre qui m'a probablement
vous
fait
naître.
Oh, je sais pas, j'avais 10-12 ans. Et quand j'ai lu ce livre, je pense que ça a fait naître en moi l'idée que je sortirais de ce quartier. C'est drôle, maintenant je le raconte à 55 ans assez facilement, mais à l'époque je ne m'en doutais pas. Et je suis même allé voir ce qu'était vraiment le Yukon. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mais refaire la traversée à la Jack London, l'histoire du chien. Mais je crois que ce livre a fait naître en moi l'idée que je sortirais de ce quartier, quoi.
Ce quartier, c'est le quartier...
C'était Belleville, Ménilmontant, ouais. Et ensuite c'était la cité des Bois-l'Abbé à Champigny. Et je n'ai eu de cesse que de relire ce livre et de rien lâcher. Et il y a dans ce livre toute une adaptabilité de la condition humaine et toute une adaptabilité du monde animal aussi. C'est presque du darwinisme à l'état pur. Ouais.
On passe à votre série. Alors là, flashback en 1977, puisque vous choisissez Les Têtes Brûlées ou en VO, Baba Black Sheep. Vous connaissiez le titre original?
Non, ouais, je connaissais le temps.
Baba, Black Sheep, Les Têtes Brûlées. Écoutons le générique.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des marines, Greg Papy Boyington, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les Têtes Brûlées.
Série un poil militaire.
Oui, série un poil militaire, mais des gueules de type qui est, effectivement avait été préjugé défaillant ou pas compatible avec le statut militaire, et en même temps des hommes qui se sont révélés d'être une grande loyauté vis-à-vis des copains, vis-à-vis du drapeau et vis-à-vis de leur engagement. Donc ça a été effectivement un modèle. J'ai eu même la chance d'être photographié en Papy Boynton dans un cockpit d'avion américain. Mais vraiment, c'était une série... Vous parliez de l'époque pop, ce que moi je considérais être la période pop où on était plutôt cheveux longs, cheveux gras et pâte au gaz, comme je disais. Et là, il y avait des gueules, il y avait encore de la virilité, il y avait cette notion de l'aventure que n'amenait pas pour moi l'univers de la pop musique des années 70-80.
pour la, j'ai une série, j'ai un film, j'ai un livre. Il me manque une chanson pour que votre popliste soit complète. Et là, pour la chanson, vous réconciliez tout le monde avec Johnny Cash.
Desperado. Oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone.
C'est un morceau de 2002 hein, sur l'album American 4, The Man Comes Around. La chanson a été à l'origine écrite par les Eagles, sortie en 73 sur l'album Desperado, justement. C'est le Johnny Cash de la fin que vous aimez particulièrement ?
Oui, oui, la fin de sa vie, la fin de sa carrière, et puis pardon, la voix de Johnny Cash, pour moi, c'est l'Amérique profonde, c'est tout ça. Et en même temps, j'avais choisi deux morceaux, un morceau Angie des Stones, c'est le morceau que j'avais adoré avec une copine, et elle m'a fait connaître les Stones, et elle m'a fait connaître Johnny Cash, puis elle m'a plaqué quand même. Donc c'était drôle de ramener comme chanson culte une chanson qui peut vous rendre heureux et une chanson qui peut vous faire pleurer. Quoi.
Il y a un point commun entre Johnny Cash et vous, c'est que Johnny Cash allait fréquemment en prison faire des concerts pour les prisonniers. Vous y rendez-vous fréquemment ?
Oui, et je crois que c'est que le citoyen, peu importe la discipline qu'il pratique, puisse entrer en milieu fermé, en milieu carcéral, et de faire en sorte que des gens puissent avoir des projets pour l'après. Parce que ce qui fait la réussite d'une réinsertion, c'est qui vous attend à la sortie. Si c'est les mêmes qui vous ont fait entrer, ça va être compliqué. Or, il faut construire du projet. Et Johnny Cash avait ça. Il amenait la musique. D'ailleurs, il a révélé quelques talents musicaux dans le pénitencier dans lequel il intervenait. Et je suis assez admiratif de ça, c'est vrai.
Alors je résume, Le Samouraï, L'Appel de la Forêt, Les Têtes Brûlées, Johnny Cash. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Desperado. Buck ne lisait pas les journaux.
Oh, you ain't getting no younger.
A-t-il encore des amis ? On les appelait les Têtes Brûlées.
Le Samouraï, interprété par Alain Delon.
Ils avaient besoin de chiens à la puissante musculature pour endurer la besogne.
Une histoire passionnante.
Ils se précipitaient par milliers vers le grand nord.
Les Têtes Brûlées. Un film exceptionnel.
Voilà. Vous vous y retrouvez dans ce volonté de pop culture ?
Oui, la solitude du samouraï, c'est aussi la solitude du décideur. Mmh. C'est souvent à ça qu'on nous compare. Et puis, le chien fidèle, son adaptabilité à des climats, des fois, qui sont volatiles, incertains, complexes et ambigus. Et puis, tête brûlée, la loyauté vis-à-vis de ses hommes et la loyauté vis-à-vis d'une patrie, même si cette patrie, vous savez, assignée à une extraction sociale qui ne lui correspondait pas. Mmh. Et je trouve que ça résume bien un peu ce que je pense de la vie. Et je crois que ça résumera jusqu'à la fin de mes jours ce que je pense de la vie.
Bien. Thierry Marx, un peu de musique pour se mettre en jambe. On va passer de Johnny Cash à J.D. McPherson. C'est un morceau qui s'appelle Head Over Heels.
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop.
I'm feeling
J.D. McPherson, Head Over Heels, cet extrait de l'album Let the Good Times Roll. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et aujourd'hui, nous parlons de pop et de pop-pop-pot avec le chef Thierry Marx. Vous êtes un homme occupé, Thierry Marx. Vous vous occupez de deux restaurants à l'hôtel Mandarin Oriental, dont évidemment le sur-mesure par Thierry Marx, deux étoiles au Michelin. Également du restaurant L'Étoile du Nord à la gare du même nom. Vous ouvrez des boulangeries. Vous êtes très impliqué dans votre association qui s'occupe de la réinsertion des jeunes en situation de précarité. Vous avez deux restaurants à Tokyo. On vous entend tous les dimanches sur France Info. Enfin, vous êtes un sportif accompli et pratiquant. Et vous voilà co-auteur d'un polar. On ne meurt pas la bouche pleine aux éditions du 109 chez Plon. Ça va? Vous tenez le rythme?
Oui, ça va, ça ouais. va. Je suis un pas de montagnard, un pas après l'autre.
Mais je crois qu'il faut ajouter à ça un entraînement matinal quotidien au dojo de Vincennes, c'est toujours le cas.
Oui, c'est
et c'est donc
cas.
Ça le secret de cette forme olympique.
Vous avez un peu raison, le secret d'un être humain, c'est le corps et l'esprit. Et il faut que ça suive. C'est vrai que quand vous vous sentez bien dans votre corps, vous êtes capable de faire un scanner, finalement, comme ça, de vous connaître un peu mieux. Et effectivement, la vie vous paraît assez facile à traverser.
Alors, petit flashback pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez de votre première émotion culinaire, de ce moment qui a fonctionné comme un déclic pour vous?
Oui, bien sûr. C'était le pain de Monsieur Ganachot, rue Ménilmontant. C'était pour moi une première... On faisait très attention à la maison, à la consommation, à la cuisine, il fallait faire gaffe. Mais il y avait le pain du dimanche de chez Bernard Ganachot, et qui était un pain exceptionnel, très extrêmement régressif. Et effectivement, ma première émotion culinaire, elle se tient autour du pain et du beurre et d'une marque de sardines à l'huile.
La fameuse baguette...
Alors c'était pas une baguette, il faisait une baguette un peu particulière, façonnée à la main, comme on dit dans le métier, et on pouvait la garder plusieurs jours, elle ne rassissait pas, et avec un morceau de beurre salé et un peu de... D'ailleurs quand les finances commençaient à devenir difficiles à la maison, on avait toujours un stock de sardines à l'huile et qui finissait sur un morceau de pain, et je me souviens de soirées sur la table de la cuisine où c'était quand même un festin de roi de se taper une boîte de sardines de Bretagne, et puis on ne voyait pas trop où c'était la Bretagne, mais ils avaient quand même de bonnes sardines à l'huile.
C'est facturé très cher aujourd'hui dans certains restaurants.
Oui, c'est vrai.
J'ai faim. Vous insistez beaucoup sur la notion de partage et de convivialité, puisque parmi les chefs qui ont compté pour vous, vous citez Bernard Loiseau, qui dans vos jeunes années n'avait pas de travail à vous proposer, mais vous a néanmoins invité à déjeuner. Est-ce que c'est ce genre d'épisode de vie qui a aussi façonné votre manière d'envisager la cuisine?
Complètement, en deux mots, je cherchais du boulot, j'avais un CV qui était largement vide. J'avais passé un CAP vite fait et je vais voir les chefs en province. Ça me paraissait plus facile que Paris, qui n'allait pas me demander pour la énième fois de quelle cité je sortais. Et Bernard Loiseau me dit, écoute, ton CV est vide, mais si tu as fait tous ces kilomètres, tu manges là. J'ai mangé chez le chef Bernard, il m'a expliqué comment il était devenu chef, comment il était devenu chef d'entreprise, comment il avait racheté l'auberge d'Alexandre Dumaine. Je suis rentré à Paris, je me suis présenté dans deux restaurants, un qui s'appelle La Marée, où le mec m'a mis dehors assez vite, et puis le second, c'était Taïwan. Et Claude Deligne me dit, mais oui, je cherche un commis, mais tu sors d'où? J'ai dit, chez Bernard Loiseau. Je pense qu'il n'a pas vérifié, j'ai mis le pied dans la porte, et ça a été la chance de ma vie, parce que après, évidemment, paix à son âme, Claude Deligne m'a fait en sorte, j'ai mis cinq noms sur un papier, et c'est cinq noms de chefs qui m'a fait rencontrer, donc Alain Chapelle, Jacques Maximin et d'autres, quoi.
Thierry Marx, une question très générale, qu'est-ce qui fait un bon cuisinier?
Qu'est-ce qui fait un bon cuisinier? C'est assez simple, c'est ce que disait Chapelle, c'est pas des recettes, c'est la maîtrise du geste, coupe juste, goût juste, gestion du plan de travail, la maîtrise du feu, l'intensité de cuisson, et puis le bon timing pour faire les choses. Et une fois que vous avez ça, c'est un peu comme quand vous apprenez la langue française, vous avez la grammaire, et avec cette grammaire, vous allez pouvoir jouer avec les ingrédients. Et là, construire tout un tas d'émotions culinaires. Parce que le problème de la cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Mmh. Et c'est là le talent d'un cuisinier. C'est comment, quand il a trois ingrédients, avec cette maîtrise du geste, cette maîtrise du feu et cette maîtrise du temps, il va vous faire un grand plat dont vous allez vous souvenir. Et ça, c'est toute la base d'un grand cuisinier.
C'est la maîtrise du feu qui m'échappe encore, moi.
Est-ce que être gourmand, à défaut de gourmet, ça peut aider? C'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Oui, ça peut aider. La gourmandise vous donne de la curiosité. Mmh. Effectivement, ça peut aider beaucoup.
Enfant, vous rêviez de devenir boulanger. Enfin, vous avez eu ces premières émotions avec le pain. Et voilà que vous ouvrez aujourd'hui des boulangeries, une quarantaine d'années plus tard. Quand un grand chef comme vous s'intéresse à une nourriture de base comme le pain, c'est pour y apporter quoi ?
C'est pour y apporter mon métier. C'est-à-dire que je m'apercevais que les boulangeries arrêtaient de faire du pain de façon pertinente et se lançaient dans ce qu'on appelle vulgairement le snacking. Et je trouvais que c'était intéressant qu'un cuisinier amène une idée de cuisine à mettre dans du pain. Vous allez me dire, ça fait des sandwichs. Oui, mais on peut revisiter le sandwich de façon intéressante. Et je trouvais que le métier de boulanger, qui me ramenait, c'est une histoire de gosse, hein, c'est une histoire de camion de pompier que j'ai peut-être pas eu, et que j'ai eu envie d'être boulanger. Et cette passion pour le pain, la rencontre avec Joël Defive, meilleur ouvrier de France, boulanger, et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? On le fait. Et puis on a mis un petit peu de sous sur une première affaire, et ça a été une vraie révélation. Et aujourd'hui, ça fonctionne très 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 bien. Et il y a tout un monde à parcourir dans le monde du sandwich, fait minute, j'insiste là-dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens bien. Et pourquoi j'ai voulu être boulanger quand j'étais gamin ? Ça me paraissait un métier où on allait arrêter de m'emmerder, à me poser des questions avec des gens avec qui j'avais pas envie de parler. Et comme je voyais le boulanger travailler la nuit, avoir une vie un petit peu à lui, sans qu'on vienne lui pomper l'air, de savoir d'où il sortait, ce qui comptait c'est que son pain soit bon, ça me plaisait bien ce métier.
Et les pains, vous aimez bien aussi les distribuer, hein. La boxe, c'est un prolongement naturel de la boulangerie ?
Ouais, la boxe, le judo, la boxe pour moi c'est la maîtrise du geste, comme le judo, et surtout les sports de combat, je pratique encore, j'aime ça, c'est de mettre du temps entre mes émotions et mes actions. De pas être en panique. C'est vrai que j'ai eu la chance de croiser l'univers du judo et l'univers de la boxe, et c'est vrai que de pouvoir mettre du temps entre ses émotions et ses exactions, ne pas rentrer dans la panique quand vous êtes submergé par l'émotion, ça peut aider dans la vie.
Donc la cuisine est un sport de combat.
Alors j'irai plus loin que ça, c'est la vie qui est un sport de combat. Donc si vous y mettez de la loyauté, il n'y a pas de honte à savoir se battre.
Intéressons-nous à votre livre, mon cher Thierry Marx, coécrit avec Odile Bouillet, avec qui vous aviez déjà collaboré sur un ouvrage de cuisine. Ça s'appelle celui-là « On ne meurt pas la bouche pleine ». Qui fait quoi ? Odile le prépare et vous faites
non,
la cuisine ?
Très honnêtement, l'idée du livre est née... j'avais accepté une émission qui s'appelait « Passeport pour le crime ». Et dans « Passeport pour le crime », on visitait des capitales les plus dangereuses du monde. Et je me suis retrouvé une dizaine de jours à Tijuana, où ça fightait entre deux cartels qui étaient en train de se déchirer, le cartel de Sinaloa pardon, et le cartel de Tijuana. Et j'ai vu des morts horribles, mais vraiment, la ville en état de couvre-feu et des morts horribles. Et je me suis dit, il y a quand même un autre moyen de se tuer. Et comme on n'arrêtait pas de me pomper l'air en permanence avec la cuisine moléculaire, et c'est vrai qu'avec avec cette...
Vous l'aviez cherché, quoi.
Oui, c'est vrai. Avec ce centre de recherche que nous avons à Orsay, avec Raphaël Aumont, on s'est dit, on a un certain nombre de pistes qui peuvent être marrantes. Et puis, évidemment, j'ai empilé, je sais faire quelques textes, je sais faire 3500 signes sur un texte, et puis je racontais un certain nombre de choses, mais je dis à Odile, tu veux pas m'aider, tu veux pas qu'on le fasse ensemble, parce que je ne sais pas assembler tout ça pour que ça fasse un roman et une intrigue. Et voilà, Odile, elle a amené toute l'architecture du livre, et moi j'ai beaucoup appris, et je pense que j'ai aussi beaucoup transmis sur ce que j'avais appris du monde des Yakuza, sur ce que j'ai appris du Japon, sur les quelques subtilités avec Raphaël qu'on a pu lui apporter, sur de la cryoconcentration de certains ingrédients qui, quand vous avez l'état de santé d'une personne, comment vous pouvez interagir avec de la cuisine en pensant qu'il se fait du bien et il se tue. Et je trouvais ça intéressant parce que la cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé. Et là, le contrat du tueur est d'oublier la santé.
Mais ce titre, On ne meurt pas la bouche pleine, ça a un petit côté San Antonio ou je m'égare ?
Non, vous avez parfaitement raison. San Antonio, j'ai adoré. Il y a même un côté dans le commissaire, l'inspecteur qui est représenté dans ce livre. Il y a un côté berrurier. Ce type qu'on voit plus parce qu'on l'a considéré ringard, on l'a étiqueté ringard, on l'a étiqueté has-been. Et finalement, c'est encore lui qui a tout un tas de subtilités du métier par l'expérience qu'on ne peut pas remplacer. Et il va amener la solution un petit peu à l'intrigue de ce polar.
Il y avait un titre de San Antonio qui était « Meurs pas, on a du monde ».
Oui, oui, c'est il y a des titres exceptionnels.
Bon, alors, je commence le pitch de votre livre, Thierry, et vous continuez. Alors qu'à Tokyo, deux cadavres d'hommes empoisonnés par une substance indécelable embarrassent la police japonaise, en France, un commandant de la brigade criminelle est chargé d'élucider la mort d'un riche japonais, lui aussi empoisonné par un produit inconnu. Des deux côtés de la planète, des assassinats qui...
Bah, qui ont des interactions possibles, qui sont liées probablement au même cuisinier qui s'est préparé un certain nombre d'ingrédients avec des contrariétés qui peuvent vous conduire quelques jours après à la mort sans que ce soit un empoisonnement. On ne voulait pas être un empoisonneur, on ne voulait pas être une empoisonneuse, on voulait faire en sorte qu'à un moment donné, ces molécules interagissent pour faire disparaître quelqu'un avec beaucoup de plaisir, mais disparaître quand même.
D'où l'appellation polar moléculaire.
Molécule.
À propos de ces livres, vous avez déclaré au Figaro « J'avais envie d'écrire autre chose qu'un livre de cuisine. Désormais, il n'y a que pour les blogueurs que ça représente un intérêt. » Est-ce que ce n'est pas un peu triste, ce constat ?
Non, je pense que les blogueurs ont pris le marché du livre de cuisine et du livre de cuisine bon marché. Donc voilà, moi je considère qu'à un moment donné, si vous faites un livre de cuisine, il faut qu'il ait du sens. Donc j'ai fait Planète Marc, j'en ai fait un tas d'autres. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça a plus grand intérêt. Et je me suis intéressé à une autre façon d'écrire. Et c'est vrai que je faisais quelques piges comme ça dans la presse sur des sujets qui m'interpellent. Et donc je trouvais que le polar était une voie intéressante.
Le crime, la cuisine, le lien entre les deux est évident, hein, pas de cuisine sans crime, ou alors la cuisine strictement végétarienne, et vous êtes végétarien. D'où vous vient ce goût du crime ?
J'ai pas le goût du crime, j'ai le goût de l'intrigue policière. C'est-à-dire que je me demande... Ce qui m'interpelle toujours, c'est l'inconstance de l'âme humaine. J'arrive pas à résoudre certaines équations. Pourquoi quelqu'un qui voue une passion à une personne, tout d'un coup, a une passion pour la détruire, tout ça m'interpelle encore. Donc j'ai cette curiosité d'aller voir dans des secteurs que je ne maîtrise pas totalement, et notamment le secteur du crime. J'essaye d'élucider un certain nombre de points pour peut-être révéler chez moi des choses plus intimes.
En annexe du livre, la recette de la blanquette de veau, plat préféré de votre personnage principal, ce qui m'oblige à vous poser la question suivante. La question suivante qui arrive
comment
tout de suite.
Votre blanquette ?
Bonne. Bonne. Oui, ça c'est OSS 117.
Bien,
c'est la réplique. Thierry Ferdinand. Mais vous savez que pourquoi j'ai participé au concours oratoire du barreau de Paris, et c'était très intéressant. Et en discutant avec le bâtonnier, il me disait, vous savez qu'au 36, il y a eu la célèbre blanquette de veau du commissaire Maigret. Donc histoire, légende, je ne sais pas. Du coup, j'ai retrouver la recette de la blanquette de veau du commissaire Maigret, et je l'ai réinterprétée un petit peu de façon moléculaire.
On ne meurt pas la bouche pleine, c'est signé Odile Bouillet et Thierry Marx, et c'est l'édition 109, enfin c'est chez Plon. D'accord, Thierry Marx, est-ce que vous savez faire ça ?
Non.
Pas du tout ?
Pas du tout.
Vous n'avez jamais essayé ?
J'ai jamais essayé, non.
Ça ne vous tente pas d'essayer ?
Ben, je vais essayer. Ouais. C'est très médiocre.
Non, oui, c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas terrible.
Je confirme.
Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour lancer les pop news.
Certain sens de l'accueil. La surprise du chef, on la doit à Netflix. Le géant du streaming a mis en ligne sans tambour, ni trompette, ni annonce la saison 3 de Better Call Saul, série dérivée de Breaking Bad, centrée sur Jimmy McGill, le futur Saul Goodman, avocat véreux de Walter White. Bande annonce de cette saison 3.
Les gars dans votre genre, ils se croient tout le temps plus malins que les autres. Et ils pensent qu'ils n'ont besoin d'être réglo avec personne. Mais un jour, la roue tourne. Elle tourne toujours.
Chuck m'a eu comme un bleu, encore une fois.
C'est ta parole contre la mienne.
Je n'oublierai pas non plus ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu me le paieras.
Tu as besoin de moi, et je vais pas te laisser te battre tout seul contre eux.
Non ! Donc, je vais arranger ça moi-même, moi. Jimmy McGill.
Parle hyper bien français, Bob Odenkirk. Si vous voulez vous faire un rattrapage intégral, vous avez donc 3 saisons de Better Call Saul, le préquel, et 5 saisons de Breaking Bad, désormais sur Netflix.
Une pop news, en voilà une pour vous, Thierry Marx. Un nouveau titre de la compile Johnny Cash, Forever Words, dévoilé. Un disque hommage de 16 titres, composé à partir de lettres et poésies de Johnny Cash. Nous avions déjà fait découvrir You Never Knew My Mind par Chris Cornell, feu le chanteur de Soundgarden. Voici maintenant I Still Love You par Elvis Costello.
I'll still love you. I won't be a stranger when I get to heaven.
L'album Forever Words arrive, il paraîtra le 6 avril.
Tintin aura bien une suite en animation au cinéma après les aventures de Tintin, le secret de la licorne, sorti en 2011.
Vous prenez la responsabilité de cette preuve ?
Pas d'inquiétude, Tintin. Cette preuve est en sécurité avec nous.
Oui, j'en prends la responsabilité puisque c'est Steven Spielberg en personne qui l'a confirmé pendant la tournée promotionnelle de Ready Player One. Les aventures de Tintin, le temple du soleil, est en chantier. C'est Peter Jackson qui réalisera, ça tombe bien, il s'y connaît en saga et il avait produit le premier. Le film regroupera les histoires du temple du soleil et des 7 boules de cristal, sorties prévues, si tout va bien, en 2021.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi. Merci Charline. Thierry Marx à suivre pour la 14, un tourneau de Rossini, l'omelette du chef, un moelleux au chocolat, le nouveau film de Spielberg et Courtney Barnett, Nameless, Faceless. Allez, show.
Sorry.
Nameless, Faceless, un morceau signé Courtney Barnett. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de notre pop chef Thierry Marx. Et vient de nous rejoindre le Marty McFly de la pop culture, tout droit revenu de 2045. Ronan Crowe, bonjour, Ronan Crowe.
Bonjour Antoine Decaune, bonjour Charline, bonjour Thierry. Bonjour. Je suis content pour une fois, je suis pas une co-girl ou n'importe quoi.
Ah, ça va venir après.
Ça va venir après, ouais. D'accord.
Dites-moi okay. Ronan, avant d'attaquer votre chronique, il paraît que vous raffolez de la blanquette de veau. Un faux ou un tox?
Alors, un tox en fait, je n'aime pas manger, je suis désolé, ça ne se voit pas, mais je n'aime pas manger.
Quoi ?
Mais oui.
Ah bon ? Mais ça n'existe pas en fait. Hein.
Ben non, je ne prends pas de plaisir à manger, voilà.
Ça ne va pas m'empêcher quand groupe. Même, avant de vous écouter parler de Ready Player One, de savoir si...
Comment est votre blanquette ?
Eh ben, ma blanquette est bonne. C'est la réponse, normalement, à donner.
Absente.
C'est tout. Ma blanquette est bonne, c'est pas Radio Londres, enfin.
Ben, c'est la réponse du film, non, attendez, moi je suis spécialiste cinéma, je suis là pour répondre...
D'accord.
Ok.
Ronan, vous avez vu Ready Player One?
Oui, alors Antoine.
Spielberg.
Ah oui, alors avant de commencer cette chronique, on va faire un petit point prononciation. Spielberg.
Spielberg.
Parce que Spielberg, ouais. C'est, je sais pas, peut-être un plat bavarois que vous connaissez. mais
Spielberg.
Voilà.
Le Spielberg.
Voilà, le Spielberg.
Le Spielberg Strudel.
Voilà, une revisite de Spielberg.
Le pudding.
Parce que Das Spiel et Der Berg. Donc Spielberg.
Oh, mais
voilà.
Vous êtes
je suis Germano Pratin.
Pratin, oui.
Exactement.
Il est remonté comme un coucou.
Ben oui, non, mais bon. Alors, allez-y, oui, Antoine, coucou. J'ai vu Ready Player One qui sort demain en salle de Steven Spielberg.
Bien, très bien.
Qui sort en salle demain. Et alors, vous avez avec vous le pape de la cuisine moléculaire, et je pense que Ready Player One, c'est un peu l'équivalent de la cuisine moléculaire cinématographique.
Je ne comprends rien à ce que vous me dites.
Mais c'est à chaque fois, Antoine. Le principe de la cuisine moléculaire, on se souvient, c'est de faire une tarte tatin sans tarte ni tatin, de faire un rôti de veau à base de pain au chocolat, ou de faire évidemment une quiche liquide. Hein, c'est à peu près ça.
Ça pourrait faire des pains, oui.
Voilà. On rappelle que c'est une personne qui n'aime pas manger. Hein,
et c'est pour ça, voilà, je ne sais pas de quoi je parle. Et effectivement, Spielberg, avec Ready Player One, propose une sorte de révolution cinématographique, mais comme c'est Spielberg, on fait une révolution tout en douceur.
Spielberg, vous avez dit.
Spielberg, j'ai dit.
Oui.
Pas Spielberg. Ne tentez pas, le diable, Antoine. Histoire de comprendre à quoi ça ressemble, écoutons la bande-annonce.
Je suis né en 2025, mais j'aurais aimé grandir dans les années 80. Comme tous mes héros. Ils appellent notre génération les millions de portées disparues. Disparues, pas parce qu'on est parti quelque part. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis.
Alors évidemment, Antoine, je vous connais, Oasis, vous pensez à une boisson fruitée avec des fruits hystériques à peu
non,
près.
Non, le groupe des frères Gallagher.
Ou le groupe des frères Gallagher, ouais. Effectivement, non. L'Oasis, c'est le futur en 2045, c'est le lieu de la réalité virtuelle, mm-hmm. Là où tout le monde se retrouvait. C'est le sujet du film de Steven Spielberg, donc, mm-hmm. Où la réalité virtuelle a remplacé la réalité. Le monde est complètement dévasté et... Tout le monde se réfugie dans cette espèce d'oasis, là, littéral, où on peut être n'importe qui et faire n'importe quoi. Le principe du film, c'est donc, en gros, de basculer vers la réalité numérique. Et c'est ce que fait le film de Spielberg avec une sorte de maestria absolue. Vous n'avez littéralement jamais vu ça. C'est-à-dire que le film, vous ne savez plus si ce que vous regardez ce sont des images faites par ordinateur ou véritablement des acteurs. Sauf que le génie de Spielberg, on connaissait déjà ça avec Avatar, vous vous souvenez, Avatar, peut-être que vous avez vu ça, ou même un peu avant Matrix avec le film des Wachowski. Eh bien là, il fait ça avec une espèce de maestria absolue et surtout tranquillement. C'est-à-dire que Spielberg, on a l'impression qu'il l'a écrit au coin de sa table. C'est un film qui n'est même pas si complexe que ça à suivre. Et c'est le génie de Spielberg de réussir un film extrêmement lisible, extrêmement simple, qui s'inspire de quoi ? Des années 80. Mm-hmm. Et c'est donc un film absolument rétro-futuriste. Rétro-futuriste, ça vous parle ?
Oui, oui.
C'est-à-dire un peu une tendance dans la cuisine. La blanquette de veau, ça revient un peu. C'est rétro-futur de faire une blanquette de veau aujourd'hui ?
C'est rétro-futur, oui, on peut. Ça, en tout cas, c'est régressif, ça nous ramène à des sensations dont on imagine des univers fantasmés, quoi.
C'est exactement ce fait Ready Player One, puisqu'il s'agit en gros de parcourir la pop culture d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tous les personnages en fait de Ready Player One sont fascinés par la pop culture des années 80, puisque le sujet du film, c'est que le créateur de cette oasis est mort et qu'il a caché à l'intérieur de son univers un Easter egg, œuf de Pâques,
oui.
Mais plus littéralement une sorte de petit trucage. Et il faut récupérer cet Easter egg là dans l'univers de Ready Player One. Et évidemment, pour ça, il faut répondre à des énigmes.
Je peux vous interrompre un instant,
Ronan. Jamais, Antoine.
Comment est votre blanquette ?
numérique.
Elle est numérique, pas blanquette. Non, Antoine, elle est virtuelle même.
Ah oui, elle bouge.
Elle bouge, évidemment. Elle est virtuelle. Elle est
voilà. Dingue.
Mais peut-être que c'est ça aussi que raconte Ready Player One, c'est que bientôt on ne mangera plus des vraies blanquettes, mais on consommera des blanquettes virtuelles.
Mais moi, on m'a vendu un film dans lequel j'allais retrouver tous les héros des films des années 80 que...
Pas exactement, en fait. C'est là où Spielberg est quand même très malin, c'est qu'effectivement, le livre dont est adapté Ready Player One est une ode à la pop culture des années 80. Sauf que Spielberg a compris que c'était un peu limité et que surtout, ça surfait sur une vague dite nostalgique. Et Spielberg, il vaut bien plus que ça. Donc, il fait une sorte de film qui répond à la fois au cahier des charges qui sont les années 80. Donc, ça fait beaucoup penser au cinéma qu'il a inventé, le cinéma d'Amblin. C'est-à-dire avec un jeune héros qui s'affronte à une société qui veut contrôler ce fameux oasis. Mais aussi, il parsème ça, un peu de Jurassic Park, un peu de King Kong, un peu de personnages de jeux vidéo d'aujourd'hui. Il y a un moment, il y a la poupée de Chucky qui apparaît. C'est un peu étrange.
Donc, c'est oui. Mais... C'est oui tout de suite. On dit
c'est oui tout de suite. Mais surtout, voilà. Par exemple, Ready Player One, ça commence par cette musique. Je vois le sourire d'Antoine de Caunes sur...
Non, pas tant que ça, parce que j'étais pas si fan que ça, moi, de Van Halen.
Vous étiez pas très jump?
Non, pas trop.
C'est quand même assez fortiche aujourd'hui de commencer...
Ça m'étonne pas trois secondes, hein.
Alors moi, je vous imagine les cheveux longs, en train de bouger la tête, en train de crier jump.
Ah non, vous avez une fausse image de moi, là.
Non, c'est mais dommage.
Bon, non.
Ça restera un fantasme virtuel pour
vous,
moi.
Vous, peut-être, Thierry, non? Non plus. Non, d'accord. Vous n'êtes pas à la bonne table.
Ça commence par Jump de Van Halen. On se dit, ok, où je suis? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce film qu'on m'a vendu, La Révolution Numérique, et qui commence par Jump?
Je sais pas où je suis, mais j'ai une nuque longue.
Ça, c'est exactement ça. Ce qui est à peu près la base du cool aujourd'hui. C'est ça que raconte Ready Player One.
Ça repose quand même la question de...
Comment est votre blanquette?
Elle est finie, Antoine.
Elle a un
mulet. Ah, elle a un mulet.
Non, la blanquette est finie.
Un petit peu dans votre assiette.
Effectivement. Donc, c'est du rétro-futur. Ce qui est assez génial dans le film, c'est que vraiment, vous n'avez jamais vu ça. Et je voudrais, j'adorerais vous raconter pourquoi vous n'avez jamais vu ça, mais
oui,
je voudrais
pourquoi
pas.
Pourquoi vous n'avez
jamais
vu
ça? Parce que je ne peux pas vous révéler la surprise qu'il y a. Au milieu du film, il y a vraiment une surprise. Il y a un cadeau de cinéphile qui est absolument génial, qui est à la fois un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire vraiment, il fait quelque chose où on se dit, il est complètement dingue de faire un truc pareil. Et puis, c'est Spielberg, donc il peut tout se permettre.
C'est trop bien.
Je vous tease,
ah
là.
Oui, vous nous teasez à mort. Mais... Attends, Thierry, vous avez compris quelque chose à ce qu'a raconté Ronan?
À peu près, oui.
Et ben voilà.
En tout cas, il a fait naître le désir d'aller voir le film.
Ah, bien.
Comme
il a
un
bien
bon cuisinier, je lui ai fait naître mon désir gourmand croquant.
Et le bouquin de Klein, le Ready Player One, on le lit avant ou après?
Et
ou
alors, ça, c'est vraiment très fort. C'est qu'il y a un livre qui existe, qui est un livre culte. Mm-hmm. Puis Spielberg, comme il fait pas les choses comme tout le monde, il prend le livre et il fait, bon, non, bah, je vais le réécrire, je vais raconter autre chose. Donc, vous pouvez lire le livre et voir le film. Mm-hmm. Et c'est deux histoires à la fois très proches et en même temps très différentes, puisque Spielberg en fait un film extrêmement politique aussi sur la manière dont la pop culture va être récupérée par les grandes industries. C'est vraiment un film, c'est le film à voir en ce moment, Ready Player One, à voir en 3D, en VO, en VF, à voir en famille.
Sous toutes les formes.
De
d'accord.
Steven Spielberg.
Merci Ronan, Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg.
Non, Spielberg.
Spielberg, ça sort demain sur les écrans. Thierry Marx, Ronan, il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Ah. Ah. Bah, c'est quoi ce délire, là? Pourquoi c'est fermé?
Ah, mais... Ah. Mais...
Henri? C'est... Mais... C'est toi, mon cochon? Mais comment ça, c'est verrouillé? Pourquoi t'as fermé la trappe à clé? Et t'as avalé la clé? Mais pourquoi t'as fait ça? Ah, tu veux pas te faire bouffer par Thierry Marx? Mais non, mais, il est végétarien, Thierry Marx. Mais non, il cuisine pas de cochon, n'est-ce pas, Thierry?
Juste les pieds.
Oh là là, oh, tu nous saoules, Henri. Attrape-moi le disque, là, sur l'étagère. C'est le disque de Wings, Live and Let Die. Allez, vas-y. Oui, allez, mec, toi, on n'a pas que ça à faire non plus. Allez, c'est parti.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. We'll be right back.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say live and let die.
Live and Let Die, c'est un morceau de 73 signé Paul McCartney. Merci Thierry Marx. On ne meurt pas la bouche pleine, c'est aux éditions Plomb dans la collection 109. Merci de nous avoir rendu visite. D'autant plus que vous rentrez du Japon, vous êtes
Plein. Un peu jet lag.
Ouais, oui. Je vous remercie doublement. Nicolas Duvauchel demain et la muse du créateur Rick Owens, une femme au parcours incroyable, Michel Lamy, seront nos invités dans Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yves à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos cuisine sur YouTube. Bon, abonnez-vous à notre podcast, oui.
Jean Lassalle.
Pas très loin, mais. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique, Pauline Laverdure, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy et Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Aresta, notre stagiaire, sans oublier évidemment Renan Crowe, notre spécialiste cinéma.
Blanquette,
désormais. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Que se passe-t-il par Jupiter
Alors,
ce soir?
Alors, nous recevons Stéphane Mercurio.